OK, si vous voulez me suivre, on va aller dans Lamentations, chapitre 1, versets 12 à 22. Autrement dit, on termine le chapitre 1 aujourd'hui. Je m'adresse à vous tous qui passez ici. Regardez et voyez s'il est une douleur pareille à ma douleur, à celle dont j'ai été frappé. L'Éternel m'a affligé au jour de son ardente colère. D'en haut, il a lancé dans mes eaux un feu qui les dévore. Il a tendu un filet sous mes pieds. Il m'a fait tomber en arrière. Il m'a jeté dans la désolation, dans une langueur de tous les jours. Sa main a lié le joug de mes iniquités. Elles se sont entrelacées, appliquées sur mon cou. Il a brisé ma force. Le Seigneur m'a livré à des mains auxquelles je ne puis résister. Le Seigneur a terrassé tous mes guerriers au milieu de moi. Il a rassemblé contre moi une armée pour détruire mes jeunes hommes. Le Seigneur a foulé au pressoir la Vierge, fille de Judas. C'est pour cela que je pleure, que mes yeux fondent en larmes, car il s'est éloigné de moi, celui qui me consolerait, qui animerait ma vie. Mes fils sont dans la désolation parce que l'ennemi a triomphé. Sion a étendu les mains et personne ne l'a consolé. L'Éternel a envoyé contre Jacob les ennemis de l'entour. Jérusalem a été un objet d'horreur au milieu d'eux. L'Éternel est juste, car j'ai été rebelle à ses ordres. Écoutez, vous tous, peuple, et voyez ma douleur. Mes vierges et mes jeunes hommes sont allés en captivité. J'ai appelé mes amis et ils m'ont trompé. Mes sacrificateurs et mes anciens ont expiré dans la ville. Ils cherchaient de la nourriture afin de ranimer leur vie. Éternel, regarde ma détresse. Mes entrailles bouillonnent. Mon cœur est bouleversé au-dedans de moi, car j'ai été rebelle. Au dehors, l'épée a fait ses ravages. Au-dedans, la mort. On a entendu mes soupirs et personne ne m'a consolé. Tous mes ennemis ont appris mon malheur. Ils se sont réjouis de ce que tu l'as causé. Tu amèneras, tu publieras le jour où ils seront comme moi. Que toute leur méchanceté viennent devant toi et traite-les comme tu m'as traité à cause de toutes mes transgressions, car mes soupirs sont nombreux et mon cœur est souffrant. Alors, si vous voulez, on va juste demander au Seigneur de bénir l'étude de manière à ce que ce ne soit pas simplement des paroles qu'on entend, mais qu'on apprenne des principes que le Seigneur veut qu'on applique dans notre vie de tous les jours. Alors, j'ai intitulé le sermon d'aujourd'hui « Le peuple de Dieu est poussé à réfléchir sur la cause de ses troubles ». Alors, j'ai divisé la section du verset 12 au verset 22 en trois parties. On a d'abord, le premier point, la source de ses troubles. Ils se rendent compte, après examen des choses, qu'ils viennent de la main de Dieu. Tu sais, c'est pas juste des troubles, ils m'ont attaqué, pauvre moi, pauvre petit moi, ma victime, je vois la victime. Ils se rendent compte, ils prennent conscience graduellement que la cause de tout ce qui leur arrive nationalement, leurs troubles, leurs douleurs, leurs problèmes, viennent de la main de Dieu. Autrement dit, c'est la main active et souveraine de Dieu. C'est très important parce que là, on parle du peuple de Dieu. C'était Judas, là. Parce qu'en 1686, quand Nabuchodonosor a pris Judas, parce qu'Israël avait déjà été en Assyrie, je pense c'est 150 ans avant. Mais là, c'est le tour de Judas. Judas, c'est la partie, il y a 12 tribus, il y avait les deux tribus qui font partie de Judas. Ils ont été attaqués par Nabuchodonosor, et là, il a fait un ravage épouvantable dans la ville. Tout était rasé, tout était brûlé, tous les bâtiments de quelque importance que ce soit étaient détruits, les gens étaient découragés. Les sacrificateurs n'avaient plus aucune force. Les gens avaient abandonné L'exercice de la foi, l'exercice des fêtes solennelles et toutes ces choses-là, c'était d'une tristesse absolue. On le lit un petit peu dans le texte, on s'en rend compte. Alors, en 586, avant Jésus-Christ, par suite de plusieurs révoltes des Hébreux, le roi de Babylone, Nebuchadnezzar, a rasé le temple de Jérusalem, pillé la ville, détruit ses murs et toutes, excusez, les maisons de quelque importance, et il avait pris la population et il l'avait déportée sur les bords du Tigre. Dans la plus grande partie de la population avait été déportée. Autrement dit, quand Nebuchadnezzar prenait le pouvoir quelque part, il prenait les populations puis il les emmenait dans son pays à lui pour avoir le contrôle. Il restait, bien souvent, ce qui restait dans le pays, c'était les plus pauvres. Alors c'est ça qui arrivait là. Alors les prophètes tels que Jérémie et Ézéchiel ont vu dans cet exil de Babylone la sanction méritée par le peuple hébreu pour avoir désobéi à Dieu. Moi, s'il y a une leçon que je retiens de l'étude de j'ai juste un chapitre d'étudier, mais il reste que on se rend compte qu'ici, on serait porté à penser que la description aura l'air d'une nation étrangère, d'une nation qui appartient pas à Dieu. Mais ici, on parle de judas, on parle du peuple de Dieu. Et quand on regarde la sévérité que l'Éternel peut avoir même envers son propre peuple, il y a de quoi nous faire réfléchir, parce que dans le Nouveau Testament, on nous dit que l'Ancien Testament nous a été donné pour notre instruction et pour nous servir d'exemple. Alors, quand on lit Lamentations, si on fait juste regarder l'ensemble de ce que le peuple de Juda vivait à l'époque, puis qu'on ne fait pas un lien avec notre propre situation actuelle, spirituellement, qu'on ne fait pas des liens, on n'apprend pas des principes, on manque le bateau complètement. Là. C'est souvent comme ça dans les livres. On étudie la Bible souvent un petit peu à la légère, en superficialité, et on voit l'histoire du peuple, soit d'Israël, soit de Juda, mais c'est rare qu'on fait le lien. Faut demander à Dieu, fais-moi voir les liens qu'il y a dans la Bible complète, inspirée de Dieu. Donc, elle a quelque chose à nous enseigner. Elle a quelque chose à nous enseigner, bien entendu, sur Lamentations. Alors, la nation entière est jugée. Et on le voit, elle a commencé déjà à expérimenter une très intense souffrance. Qu'est-ce que les Écritures nous apprennent dans le Nouveau Testament concernant le jugement de Dieu? Il va commencer où? Par son propre peuple. Le Seigneur dit qu'il va commencer le jugement par son propre peuple. Donc, autrement dit, ce qu'il est en train de dire, c'est qu'il peut juger l'Église. Les églises locales à travers le monde, à cause de leur situation de désobéissance, il peut arriver que si le Seigneur a permis que chacun de ces groupes-là a entendu des avertissements et qu'ils n'en ont pas tenu compte, ils ont désobéi, ils ont maintenu leur rébellion, bien c'est sûr que le Seigneur peut être sévère. Quand on regarde ça, il y a quelque chose à se poser la question. Comment Dieu, qui aime son peuple, peut-il amener des circonstances aussi souffrantes à son peuple? Mais la réponse, c'est le péché. À cause du péché et à cause de l'endurcissement, malgré que le Seigneur envoie toujours des prophètes, envoie toujours des avertissements, quand le peuple n'en tient pas compte, un jour la masse tombe. Puis quand la masse tombe, avec le Seigneur, très patient le Seigneur, on le sait dans notre propre vie, là. On est faible, on est pauvre, on est misérable, on chute souvent, on déshonore le Seigneur à bien des occasions. Il est patient, il nous envoie des sermons, des lectures, des amis qui nous... Mais à un moment donné, quand il y a mauvaise foi, qu'il y a des obéissances volontaires, c'est très dangereux. On le voit par ces textes-là. Ça a quelque chose à nous faire réfléchir. Le Seigneur peut être juge. Tu sais, il y a un verset, je pense que c'est dans Romains, qui dit « Considérez la bonté et la sévérité de Dieu. » On n'a aucune misère à considérer la bonté de Dieu. « Ah, oh, Dieu est bon, Dieu... » Dieu est bon. C'est vrai qu'il est bon. Mais quand on dit considérer la sévérité de Dieu, ah, ça, on n'était pas tellement intéressé à écouter ça, là. N'est-ce pas qu'on est le même? Alors, c'est l'absolue tristesse par le peuple de Dieu. Et en plus, quand tu es triste, normalement, dans une famille normale, tu as des amis ou des voisins ou de la famille qui vient te consoler. Le texte dit qu'il n'avait pas de consolateur, aucun consolateur. Même au contraire, les gens, les ennemis, se moquaient d'eux et riaient d'eux et étaient joyeux de leur malheur. C'est un peu comme si tu serais dans le malheur, de là, puis au lieu que quelqu'un vienne te consoler un petit peu, te taper sur l'épaule, ben, non, ça viendrait dire, c'est bon pour toi. Alors, bien entendu, Judas est nostalgique de son passé. Et la nostalgie et le rappel et la mémoire de son passé ne fait qu'amplifier sa douleur. On avait vu ça un petit peu dans la première leçon. Alors, toutes ces douloureuses expériences vont conduire le peuple de Dieu à la réflexion sur plusieurs choses. Donc, la première, on a dit, les versets 12 à 16, la source de leur trouble. Ils viennent de la main de Dieu. Pour le peuple de Dieu, quand tu es sous jugement, de penser que tu es victime, ça c'est comme quasiment agréable. Ah, ils sont méchants, ils m'ont attaqué, ils m'ont fait du mal. Mais prendre conscience que à cause de ton péché, de ton endurcissement, de ton manque de repentance, que Dieu lui-même est la cause de tes troubles, autant dans la vie privée que dans la vie nationale. Quand il arrive des troubles de nature nationale, bien entendu, il y a un paquet de souffrances qui suit ça. Je pense que c'est naturel de s'interroger sur pourquoi. Pourquoi ça nous arrive là? On est le peuple de Dieu, on est supposé être béni, on est supposé être heureux, on est supposé... Puis là, tu te rends compte qu'il n'y a plus rien de ce que tu es supposé qui arrive. Alors, le Seigneur permet que nous soyons conscientisés sur le fait que Dieu lui-même est la source ultime à cause de nos péchés et de notre ignorance volontaire des nombreux avertissements qu'il nous a envoyés par l'intermédiaire des prophètes, ou pas juste des prophètes, n'importe quel moyen que le Seigneur a utilisé pour parler à son peuple. Puis le peuple n'a pas dit, ben là, je ne savais pas, une excuse. Non, ils savaient, mais ils ont persévéré dans leur rébellion, dans leur désobéissance. Verset 12 nous amène à voir vraiment l'aspect de la main souveraine de Dieu. La main souveraine, ça veut dire que c'est Dieu qui a décidé ce qui leur arrive, et c'est Dieu qui l'exécute. Il dit, « N'êtes-vous pas touchés, vous tous qui passez par le chemin? Regardez, et voyez s'il est une douleur pareille à la douleur dont j'ai été frappé, moi que l'Éternel afflige au jour de l'ardeur de sa colère. » Le peuple en détresse, bien entendu, est porté à amplifier son affliction pour attirer la sympathie. Ça, c'est humain. Hein? Disons qu'on souffre, des fois, on peut être porté à vouloir tellement mettre l'accent sur notre souffrance, puis, pour petit moi, en anglais, l'apitoiement, on s'apitoie. Hein? Alors, des fois, on est porté à trop mettre l'accent sur l'apitoiement. Ah, c'est des ennemis, c'est des méchants, c'est ici. Tandis que là, les circonstances t'amènent à réfléchir et à réaliser que c'est Dieu lui-même. Hey, c'est, pour un chrétien, se rendre compte que c'est Dieu qui amène des problèmes dans sa vie, ça a de quoi nous faire réfléchir sérieusement. Alors, les troubles sont d'origine divine. Ici, les citoyens de Jérusalem regardent au-delà des instruments. Bien sûr, ils voient les armées ennemies, toutes sortes d'instruments que le Seigneur... Mais là, ici, les gens ne regardent plus les instruments, regardent celui qui manie les instruments. Les troubles sont aussi, une autre caractéristique, qu'ils sont sagement appropriés. Autrement dit, si on prendrait tout le chapitre 1, la deuxième partie, même tout chapitre 1, qu'on sortirait toutes les douleurs que le Seigneur envoyait à son peuple, on se rendra compte que c'est toutes des moyens que le Seigneur a utilisés pour corriger des choses bien précises dans la vie de son peuple. Bon, on n'aura pas le temps de le faire ce matin, mais on pourrait le faire. Prendre tout ce que le Seigneur envoie, puis se rendre compte que c'est une réponse appropriée de Dieu pour corriger des problèmes précis. Le Seigneur, là-dessus, il est maître pour amener des choses qui correspondent. Et autre chose, le Seigneur n'envoie pas des troubles dans son peuple, des souffrances dans son peuple, juste pour le plaisir de la chose. Le Seigneur envoie des troubles parce que ça poursuit un objectif. L'objectif n'est pas trop difficile à déterminer. Il veut emmener son peuple à la conscientisation qu'ils sont désobéissants à sa loi, qu'ils sont moralement d'impatates, qu'ils sont rebelles. Il veut les emmener à toutes ces choses-là. Et il n'y a pas d'autre moyen. Souvent, le Seigneur, quand il veut nous montrer quelque chose, vous remarquez ça, que les leçons, je sais pas si c'est dans votre cas, vous autres, mais moi, dans mon cas, moi, c'est ça. On apprend souvent les meilleures leçons spirituelles par la douleur. C'est bizarre, parce que les Écritures nous donnent un paquet de conseils que si on les suivait, on serait heureux comme le Seigneur nous promet qu'on le serait. Mais vu que c'est pas le cas, bien là, il nous laisse aller dans nos affaires, mais à un moment donné, l'objectif est clair, il veut nous faire réaliser la gravité et l'ampleur de leur désobéissance afin de les amener à confesser authentiquement leurs innombrables péchés. Innombrables. Quand on regarde nos propres vies, on est sauvé, on est régénéré, on est heureux, on sait qu'on va, nos péchés sont pardonnés, on sait qu'on va aller au ciel, on sait que le Seigneur est patient. Mais il reste que on se doit de se repentir pour l'ensemble des péchés qu'on commet après notre salut. Est-ce qu'on pourrait utiliser le terme innombrable pour parler de nos péchés depuis notre salut? Moi, je dis très, très catégoriquement oui. On pêche, on continue le péché, pas volontairement tout le temps. Ça peut arriver qu'on le fasse volontairement, mais si on le fait pas volontairement, il reste que dans nos pensées, quelqu'un qui serait... Je me souviens d'une fois d'un sermon que j'avais entendu, un pasteur, il avait dit « Est-ce que vous seriez disposé à ce que ce matin, on prenne chacun de vos vies, puis on ait un gros écran, puis on mette sous l'écran toutes vos pensées de la semaine, sans exception, même les pires. » On sait que des fois, on a des pas pires, mais on a des très pires aussi. Alors, est-ce qu'on oserait que chacun de nous, OK, ce matin, on va faire un spectacle, on loue, puis là, on dit, OK, on montre la vie de Pierre, il y a deux Pierres, les deux Pierres. Est-ce qu'on montre la vie des deux Pierres en détail, ce qu'ils ont pensé toute la semaine? Hé, misère, moi, j'irais me cacher en dessous du tapis, je me garocherais en bas, je pense. Non, mais, tu sais, c'est ça, on pêche, mais... Ça, c'est juste nos péchés de pensée. Mais il y en a d'autres. Les péchés de la bouche. Tu sais, on dit la gueule, t'as tombé une grande gueule. Mais on le sait, on a toute la bouche, on pourrait même utiliser la bouche sale. Parce que, moi, il y a une chose que j'ai remarquée dans ma vie. C'est si je m'assois au restaurant, sans vouloir écouter ce qui se passe, je veux juste m'asseoir au restaurant, il y a quelqu'un en arrière, quand ils écoutent parler, ils parlent de quoi? Toujours en mal contre les autres. C'est toujours les autres qui sont pas corrects, puis eux autres sont corrects, puis c'est général. Mais pensez-vous qu'il y a une si grosse différence que ça entre les inconvertis puis les convertis? Des conversations de chrétiens, souvent, c'est boiteux. On parle les uns contre les autres. Le Seigneur nous dit de ne pas le faire, mais on le fait pareil. Ça, c'est... On a parlé des pensées. Est-ce qu'on sera prêt à ce que quelqu'un aurait enregistré toutes nos conversations de la semaine, puis qu'on les fasse écouter devant le monde ici ce matin. Moi, je suis convaincu, cette semaine, j'ai quand même pas la pire semaine de ma vie. Mais même si c'est pas la pire semaine de ma vie, je ne voudrais pas que tout ce que j'ai dit cette semaine, vous puissiez l'écouter. Puis je suis à peu près certain que c'est la même chose pour vous. Là, je vois quelqu'un qui fait du saut, tant mieux si c'est pas ton cas. Donc, pensée, parole, action. En action, on en fait une multitude. Puis il y a une autre sorte qui paraît pas pantoute. Soit tu peux rencontrer quelqu'un, le meilleur chrétien, tu vas le voir, tu vas dire, ah, lui, pas si pire, lui. Mais les péchés d'omission, c'est aussi grave qu'un péché de commission, parce que le Seigneur nous commande une multitude de choses à travers toutes les Saintes Écritures, Ancien et Nouveau Testament. Une multitude. Chaque fois qu'on voit qu'il nous demande quelque chose et qu'on ne le fait pas, on pêche par omission. C'est aussi grave qu'un péché de commission. Après ça, il y a les péchés de la bouche, bien sûr. Il y a les fautes secrètes qu'il appelle. Ça, c'est des péchés qu'on commet, qu'on n'est même pas conscient. Ça, je trouve ça tellement terrible qu'on est des chrétiens. On peut pécher, puis je pourrais vous donner des exemples. Je rentrerai pas là-dedans matin, là. Mais on peut pécher puis se rendre même pas compte qu'on pêche. Ça veut-tu dire qu'on fait dur pas à peu près? On pêche, puis on s'en rend même pas compte. On pourra même pas identifier comment on a péché dans telle affaire qu'on a vécue. Alors, amener les gens à confesser authentiquement leurs innombrables péchés et se repentir pour revenir à reconnaître les faveurs de Dieu. Les grâces que tu avais avant, le bonheur que tu connaissais ici et là, dans toutes les choses qu'on vit avec le Seigneur, tu veux revenir vers ça. Si tu es dans le malheur, puis toute la nation est dans le malheur, tu te souviens du passé, tu dis, ah, oh, t'as-tu bien en ce temps-là? Ouais, mais fais quelque chose. Repends-toi, abandonne ton péché, confesse-le, bouge. Alors, si tu fais ça, tu vas probablement revenir dans les faveurs de Dieu. Pas probablement, parce que le Seigneur dit, quand on confesse nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Donc, la main souveraine de Dieu, dans le verset 12, est la main éducatrice. Est-ce que Dieu serait pas le plus grand pédagogue de tous les temps? Pédagogue, c'est celui qui enseigne. Est-ce que le Seigneur sait enseigner? Mais les moyens qu'il utilise, des fois, on aimerait mieux que ce soit des moyens doux, des moyens faciles, des moyens pas trop souffrants. Mais des fois, il met le doigt où ça fait bobo, des fois. Alors, il dit, ici, il parle de Dieu. Il dit, d'en haut, il parle du Dieu dans ça. Il a envoyé dans mes eaux. Dieu a envoyé dans ses eaux un feu qui s'en est rendu maître. Il a tendu un filet sous mes pieds. Il m'a fait tomber en arrière. Il m'a mise dans la désolation, dans une langueur de tous les jours. Le joug de mes iniquités est lié par sa main. Elles sont entrelacées et pèsent sur mon cou. Il a fait fléchir ma force. Le Seigneur m'a livré à des mains auxquelles je ne puis résister. Le Seigneur a renversé au milieu de moi tous les hommes vaillants. Il a convoqué contre moi une assemblée pour mettre en pièces mes jeunes gens d'élite. Le Seigneur a foulé au pressoir la Vierge, fille de Judas. Ce qui est intéressant ici, c'est de faire une analyse. Quand on fait une recherche sur un passage, on va voir un peu ce que les gens ont dit sur ça. Mais dans le fond, on pourrait le regarder et l'analyser sans même avoir consulté aucun outil. Le Seigneur utilise ici des images qui sont très fortes, des images évocatrices pour illustrer son rôle dans l'administration de la discipline de son peuple. Et quand on les regarde, il y en a cinq. Vous allez voir que c'est des images. Le Seigneur prend des mots qu'on connaît, des concepts qu'on connaît, et il vient nous les appliquer à la situation que Judas vivait. Il utilise cinq mots. Dans le verset 13, il utilise le mot « un feu ». d'en haut, il a envoyé dans mes eaux un feu qui s'en est rendu maître. Donc, du feu dans les eaux, ça doit être quoi? Ça ressemble à de la fièvre. Le Seigneur lui-même a envoyé du feu dans ses eaux. Donc, le peuple est comme une personne en fièvre, et la fièvre est l'envoi de Dieu. Le psaume 102, verset 3, utilise cette image évocatrice en disant « Mes eaux se sont enflammées comme un tison. » On sait très bien qu'on ne parle pas de vraiment mettre le feu après les eaux, là. C'est une douleur interne qui t'amène une fièvre telle que tu sais que c'est Dieu lui-même qui te l'envoie. Donc, utilise cette image du feu. C'est fort comme image, le feu. Le deuxième utilise, dans le verset 13, un filet. Il dit, « Il a tendu un filet sous mes pieds, il m'a fait tomber en arrière. » Autrement dit, quand tu te promènes les filets, c'est que quand tu tires le filet, ou tu tombes par en avant, ou tu tombes par arrière, là, il fait de tomber en arrière. Un filet, quand il est pogné dedans, là, comment tu essaieras de t'en sortir? T'en sors pas. Et quand tu penses que le Seigneur utilise ces images-là pour parler qu'il tient son peuple captif, il a fait exprès pour mettre un filet puis je vois qu'il se pogne dedans. Alors, la nation est comme une personne dans un filet. Plus elle lutte pour s'en sortir, plus elle est empêtrée, et ce filet est celui que Dieu étend. Troisième image, il parle d'une maladie dans le verset 13, une langueur. À un moment donné, j'ai dit, oups, c'est langueur. Bon, j'ai été obligé de sortir mon dictionnaire. Une langueur, c'est une maladie qui nous amène à s'affaiblir de plus en plus. Alors, il utilise ici l'image de la langueur pour parler de ce qu'il envoie lui-même à son peuple. Il dit, il m'a mis dans la désolation, dans une langueur de tous les jours. Autrement dit, ta maladie n'est pas quelque chose que, OK, t'arrives là, t'es comme, ça s'aggrave, autrement dit. Une langueur, c'est une maladie qui s'aggrave. C'est l'état d'un malade dont les forces diminuent lentement, mais continuellement. Il parle de son peuple. Quatrième chose, un joug. On sait ce que c'est un joug, là. On parle des bœufs. Des fois, on prend deux bœufs ou deux chevaux. On les met un genre de choses en bois, du cou. Puis après ça, on attache des cordes après ça. Puis, c'est ça le joug. Ça peut être pesant. Le Seigneur, il dit que son joug à lui est léger. Mais le joug qu'il envoie là, par l'intermédiaire des ennemis de Dieu, c'est pas un joug léger. Il dit, le joug de mes iniquités est lié par sa main. Autrement dit, la manière dont le joug est placé sur ton cou et les cordes qui sont attachées après, c'est pas les hommes, là. Ils parlent que c'est Dieu qui a mis ça sur le dos. Alors, on n'est jamais empêtré dans un joug autre que celui qui est encadré par nos propres transgressions. Autrement dit, notre joug correspond un peu au péché qu'on a commis. Le Seigneur permet cela. Le pécheur est retenu par les cordes de ses propres péchés. Proverbe 5, verset 22, ça dit, « Le méchant est pris dans ses propres iniquités, il est saisi par les liens de son péché. » Et le dernier, dans le verset 15, c'est le prétoire. Et on va arrêter là. Je veux juste lire le verset 15, et après ça, on va arrêter là pour aujourd'hui. « Le Seigneur a renversé au milieu de moi tous les hommes vaillants. Il a convoqué contre moi une assemblée pour mettre en pièces mes jeunes gens d'élite. Le Seigneur a foulé au pressoir la vierge fille de Judas. » Un pressoir, vous savez, c'est une traîne qui prenait, il récoltait des raisins, mettait ça dans un genre de cuve, puis embarquait tout là-dedans. Pressoir, c'est vraiment que tu piétines, t'es piétiné, puis il sortait du jus de ça, puis le jus de ça, il faisait du vin avec ça. Alors, la nation est comme une personne dans un pressoir, non seulement foulée aux pieds, mais écrasée comme les raisins dans le pressoir de la colère de Dieu. Et son sang est... Excusez-moi, j'ai perdu un bout. Son sang est pressé comme le vin, et c'est Dieu qui a ainsi foulé aux pieds la Vierge, la fille de Judas. Alors, on va arrêter.